la parole de Dieu maintenant, et puis tout à l'heure on prendra le temps de reprendre un chant, et puis de partager ensemble encore un temps de louange et d'action de grâce autour de la scène. Désolé pour ce matin, exceptionnellement il n'y aura pas de PowerPoint, mais en même temps vous allez tout à fait comprendre ce que je veux vous dire et quelle est la direction de l'esprit pour plusieurs cœurs ici ce matin. On est quand même toujours dans la thématique de la restauration et plus particulièrement sur la question du pardon. Dimanche dernier, on a commencé à aborder ce chemin de restauration tellement important qui est le pardon. C'est un chemin de restauration incontournable, mais comme on l'a vu au travers de la parabole du serviteur impitoyable, de cet entretien entre Jésus et Pierre, on s'aperçoit que le pardon ne peut pas être abordé de façon légaliste, à coup de yaka, faucon, il faut, tu dois. Et parce qu'il y a effectivement des situations, selon les vies, les uns et les autres, des situations qui parfois peuvent être extrêmement tragiques, extrêmement douloureuses, des situations dans lesquelles on peut très très vite se retrouver dans l'incapacité, malgré la bonne volonté, se retrouver dans l'incapacité de pardonner. Et se retrouver à ce moment-là avec notre bonne volonté, comme Pierre, qui vient devant Jésus, qui lui dit « Seigneur, combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère ?» Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Les rabbins disent 3 ou 4. Moi, je suis prêt à aller jusqu'à 7. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dis? Et Jésus lui dit, non, mais Pierre, tu ne te rends pas compte. Ça, c'est des gouttes. Tu es encore en train de compter. Tu es encore en train de faire tes petits comptes. 3, 4 ou 7, ça reste des gouttes. Mon fleuve à moi, mon pardon à moi, c'est une source qui est puissante, qui est inconditionnelle et qui coule du cœur de mon Père et qui coule de mon propre cœur. Et c'est pour ça, Pierre, je ne te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois 7 fois. Ce n'est pas pour un chiffre, c'est parce que c'est une mesure qui est réellement inquantifiable. Le pardon de Dieu, il est inquantifiable. Tu ne peux le saisir que par la foi. Et tu ne peux pas le rationaliser. Et puis Pierre est là, avec certes toute sa bonne volonté, mais il est confronté à la question du pardon. Jésus, dans la parabole qu'il va donner, autant dans sa réponse que dans la parabole qui est l'explication de sa réponse, Jésus va donner des chiffres vertigineux. Tout en réalité dans les propos du Seigneur sont exacerbés, tout est hyperbolique et c'est volontaire parce que le Seigneur veut nous faire comprendre que derrière ce serviteur qui était à genoux devant le roi miséricordieux en train d'implorer sa grâce et qui dans son inconscience pensait qu'il allait pouvoir payer quelque chose, aie patience envers moi et je te paierai tout. Derrière ce serviteur en réalité, il y a ma vie, il y a la tienne. Si tu en prends conscience, et il y a ce roi miséricordieux, ce Père éternel dans le ciel, qui dans sa grâce remet la dette et le laisse aller, principe de la grâce surabondante qui va aller au-delà de la demande du serviteur. Et au-delà de cet entretien entre Jésus et Pierre sur la question du pardon, en filigrane, derrière, et en deuxième lecture, il y a la question de ma compréhension de la grâce de Dieu. Est-ce que j'ai compris ma véritable nature? Est-ce que j'ai compris réellement qui j'étais avant d'être au Seigneur? Est-ce que j'ai compris l'immensité de ma dette et l'immensité de ma grâce? Et alors que Pierre, lui, comme nous, on est humain, on a les yeux sur le dossier, on a les yeux sur l'offense, on a les yeux sur l'offenseur, on a les yeux sur la blessure, le Seigneur veut amener Pierre à changer de regard et lui montrer qu'il avait lui-même une dette immense et que le Maître a fait grâce et a accordé une grâce encore plus immense. De sorte que cette révélation, parce que frères et sœurs, ça ne peut pas être dans nos têtes. Ce sont des révélations de cœur où ça ne marche pas. Et ces révélations de cœur, là, en nous, bouleversent. Je ne suis pas reconnaissant pour la grâce de Dieu et le pardon de mes péchés, le sacrifice de Jésus et son œuvre, mais je suis bouleversé, je suis confondu par l'immensité de ce qu'il a fait et de ce qu'il m'a accordé. Et j'ai tellement les yeux fixés sur lui que du coup, j'ai plus mes yeux fixés sur l'offense ou sur l'offenseur. Le dossier, je le mets à la poubelle. La dette, j'y renonce. Je déchire l'acte de condamnation. Je le jette à la poubelle. Je suis tellement occupé à bénir mon Dieu que cette révélation a tellement transformé ma vie que c'est comme ça que Jésus dit à Pierre, comme ça tu vas pouvoir pardonner. Si tes yeux sont sur moi, tu vas réussir à pardonner. Pas par toi-même, je t'en donnerai la capacité. Mais c'est comme ça que ça va venir. Et à cette question implicite, très souvent, que nous nous posons et que nous, dans laquelle nous nous disons, mais finalement, mais comment faire pour pardonner ? Le Seigneur, lui, ayant révélé sa grâce, retourne la question ensuite, implicitement, en deuxième lecture, et dit, mais finalement, la question, c'est pas comment fait-on pour pardonner ? La question, c'est comment fais-tu pour ne pas pardonner avec ce que j'ai fait pour toi ? Et si tu réalises ce que j'ai fait pour toi, tu arriveras à pardonner, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et Jésus amène Pierre et il nous amène, nous, à changer de regard et il veut produire en nous cette source qui coule, cette source naturelle et inconditionnelle. Le plus gros problème, frères et sœurs, très souvent, c'est que nous avons de bonnes connaissances, mais nous manquons terriblement de révélation. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce matin, j'ai à cœur d'insister sur cet aspect du pardon et je vous emmène avec moi dans Luc chapitre 15 pour que l'on puisse considérer, c'est très important d'insister sur cet aspect, sur cette facette du pardon. Le thème du message de la semaine dernière, c'était « Pardonner, oui, mais comment ?» Aujourd'hui, la réponse, entre autres, c'est « Comme le Père vous a pardonné ». Et dimanche prochain, je vous dirai « Comme Christ vous a pardonné ». Mais on commence ce matin par « Comme le Père vous a pardonné ». Et on fait cette lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. On va prendre les versets à partir du verset 11. Parabole qui a été malheureusement, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas un péché, mais qui a été malheureusement appelée la parabole du fils prodigue. C'est bien dommage parce que on met prodigue signifie dépensier, gaspilleur. C'est le prodigue, celui qui a dépensé, qui a gaspillé sa vie. Et on met l'accent, on oriente beaucoup l'attention sur le côté gâché de la vie du fils, alors que le véritable héros de la parabole, c'est le père. Et ça, ce serait plutôt la parabole du cœur du père. Ou alors, si on voulait parler de perdition, il faudrait, pour être tout à fait honnête, faudrait l'appeler la parabole des deux fils perdus. Parce que le deuxième, vous allez voir, il est resté, mais il était tout aussi perdu que le premier. On regarde ensemble, Luc chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, en parabole, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et là, faites très attention. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Derrière, il prévoit de dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ça, ça fait partie du speech qu'il a répété devant la glace quand il s'est préparé pour aller voir son père. Il a prévu de dire « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes ouvriers. » Verset 20, il a terminé sa répétition, il se lève et il va vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et là, il est sur le point de dire une des plus grosses bêtises que beaucoup de gens inconsciemment pensent quand ils s'approchent du Seigneur. « Il va falloir que je fasse mes preuves. Je vais essayer à ma façon de payer quelque chose. » De la même façon que le serviteur dans la parabole de la semaine dernière avait dit au roi miséricordieux, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Et là, c'est le même principe. Le fils prodigue, lorsqu'il revient, il s'imagine, il n'est pas conscient qu'il ne peut rien payer, qu'il ne peut rien rembourser. La grâce est un cadeau qui coûte 100% au donneur et rien au receveur. Si d'une façon ou d'une autre je paye 1%, ce n'est plus une grâce, ce n'est plus un cadeau. C'est qu'il y aurait quelque chose en moi qui fasse que le Seigneur ait trouvé de quoi dire « Ah quand même, allez, je vais le reprendre, c'est un bon gars. » C'est... Non, il n'y avait rien en moi pour permettre que... Et le Père ne lui permet surtout pas de dire ça. « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, en d'autres termes. Je vais faire mes preuves pour gagner ton cœur et ta confiance. » Non, le retour du Fils sur la base d'un cœur repentant suffit à Dieu le Père. Et là, le Père lui coupe la parole. Mais le Père dit à ses serviteurs, parce que la première partie de la confession est excellente, apportez, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le Père. Merci Seigneur pour ces moments où il nous coupe la parole, il nous empêche de dire des bêtises ou de faire des bêtises. Mais le Père, je rajoute, lui a coupé la parole. Et il dit à ses serviteurs, apportez vite, vite, pas dans 3 mois, maintenant. Il est rentré maintenant, je l'accueille maintenant, je le purifie maintenant, je le restaure maintenant, je le rétablis maintenant, à 100% et tout de suite. Apportez vite l'empressement du cœur du Père à pardonner. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et si seulement la parabole s'arrêtait là, malheureusement, elle ne s'arrête pas là. Or, dit Jésus, il y a un autre fils. Il y a le fils aîné, celui qui était dans les champs, celui qui était à l'œuvre pour son père, celui qui n'a jamais claqué la porte, celui qui n'est jamais parti, celui qui n'a jamais quitté l'église évangélique, celui qui est toujours là, toujours resté. Il y a ce fils. Et ce fils, lorsqu'il revient, il approche de la maison, il entend la musique et les danses, il entend qu'il y a une joie inhabituelle. Il appelle un de ses serviteurs et il demande ce que c'est. Il n'a même pas demandé à son propre père. Il a demandé à un de ses serviteurs ce qui se passait dans la maison de son père. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour ». Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné, verset 28, se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, » littéralement, il ne dit pas « ton fils ». Littéralement, il y a une tournure juive, sémitique, extrêmement méprisante, qu'on peut traduire ainsi par « quand ce fils de toi ». Il n'a pas dit « mon frère », il n'a même pas dit « ton fils ». Il a dit « ce fils de toi ». Quand ce fils de toi, j'ai rien à voir avec lui et par conséquent, j'ai pas grand-chose à voir avec toi. Quand ce fils de toi est arrivé, lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, c'est ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il est perdu, il est retrouvé. Amen. C'est important d'insister, je veux vraiment insister sur cet aspect du pardon. La semaine dernière, pardonner, oui, mais comment ? Jésus apporte des éléments de réponse. Ce matin, je partage avec vous comme le Père vous a pardonné. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le Fils, ma vie, ta vie, dans sa nature pécheresse, n'a aucune. Devant les tribunaux humains, on peut toujours jouer à coups de manche et de code de procédure pénale. On peut très bien jouer encore et toujours avec des circonstances atténuantes, des excuses, des machins. Le système pénal divin est très simple. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, ce que la Bible appelle la géhenne, un lieu de souffrance spirituelle, morale et physique éternelle, sans aucune possibilité de retour, sans aucune passerelle avec la terre ou le ciel, sans réincarnation, sans seconde chance, jamais rien. Le système divin est très simple. Il est coupable. Et dans ce texte, Jésus ne va absolument pas nier la responsabilité du Fils. Oui, il est totalement coupable. Il est débauché. Il a craché au visage de son Père. Quand le Fils vient et qu'il dit à son Père, « Donne-moi la part d'héritage qui me revient », en réalité, il est en train de commettre un outrage, parce que le Père est un personnage. C'est un noble, c'est quelqu'un qui a une dignité, c'est quelqu'un de respecté, de respectable, d'honorable, qui est bien, il symbolise dans la parabole, il symbolise Dieu le Père, qui dans son cœur a tout mis en œuvre pour ses enfants. Et quand il lui dit « donne-moi la part d'héritage qui me revient », il n'est pas en train de lui demander 500 balles, un petit coup de main pour aller faire un voyage. Demander la part d'héritage, peut-être que de nos jours, les parents, les enfants s'arrangent devant notaire, mais à cette époque, demander à quelqu'un la part d'héritage du vivant de ses parents, c'est l'affront ultime. C'est comme s'il lui avait craché au visage et qu'il lui avait dit « tu es mort pour moi ». Tu es mort pour moi, il n'y a pas de Dieu, je ne veux plus de Dieu, je n'ai plus de Père dans le ciel, tu es mort, il lui a craché au visage, il l'a invectivé, il a pris ce qui lui revenait et il est parti. Ce fils est à 200% coupable, responsable, non excusable, il est sale, il est abject et il n'a aucune circonstance atténuante avec un Père aussi extraordinaire d'avoir été ce qu'il a été, d'avoir fait ce qu'il a fait et d'avoir été là où il a été, fréquenté ce qu'il a fréquenté. Donc il n'y a absolument aucune excuse. Mais on l'a chanté, on l'a vu la semaine dernière, on le célèbre chaque dimanche. Il y a ce que Jésus, dans sa grâce, a fait pour nous. Lui, il a payé. Pourquoi le Père peut-il pardonner comme ça ? Parce que la loi de Dieu a été parfaitement assouvie en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix, par sa vie et par son œuvre à la croix. Et parce que cette œuvre a été parfaitement accomplie, Jésus est l'avocat suprême, le tribunal divin n'est pas le tribunal humain, la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce présidentielle. Dans ce monde, vous avez à chaque élection de nouveaux présidents, ça se fait de moins en moins, mais lorsqu'un président de la République est élu, il a ce droit, il a ce pouvoir, grâce à son élection, au moment où il est élu, il a le droit de faire sauter les infractions. S'il veut, il peut faire sauter toutes les infractions du mois précédent son élection. Il peut accorder la grâce à tous les gens qui ont franchi un feu rouge, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Il peut estimer que tel prisonnier, au détriment de la justice, n'aurait jamais dû être condamné. Il les prend et il peut libérer. Mais dans ce cas, c'est totalement injuste. Parce que la loi n'est pas assouvie. Qui paye la dette ? Qui paye la facture ? Personne. Et la grâce présidentielle, quelque part, est totalement injuste. C'est trop facile. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé leur dette envers la société. Mais la grâce de Dieu n'est pas une grâce facile. Elle n'est ni laxiste ni permissive. Parce que la grâce de Dieu a été acquise grâce à Jésus qui lui a dit « Père, moi, je vais payer la totalité de leur dette. Jusqu'au dernier centime, je vais tout payer. » Et comme la facture, on l'a vu la semaine dernière, était totalement acquittée, sur cette base-là, quand le prodigue revient, il revient pour faire valoir quoi ? Il n'a aucune excuse. Tu n'as, qui que tu sois un brigand, un bandit, une prostituée, un voleur, un violeur, qui que tu sois, tu n'as pas d'excuse. Et moi, le bon petit gosse de pasteur évangélique qui avait fait 4 bêtises dans l'ensemble de ma vie, ça ne m'a pas empêché d'être convaincu de péché, de comprendre que j'avais une nature pécheresse, parce que tu commettes 500 grammes de péché ou 500 kilos de péché, aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché, et jamais rien de souillé et d'impur ne rentrera dans son royaume. Donc le Seigneur, lui, sait que personne ne peut rentrer, Jésus vient,
Il paye la dette. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu n'est ni laxiste, ni permissive, ni facile, parce que Jésus a payé la totalité de ma dette, de mes péchés, de mes fautes. Et par son sang, si tu te repens et que tu crois, il efface. Il ne couvre pas, merci pour ce chant, il ne couvre pas. Dans l'Ancien Testament, on couvrait les fautes, Dieu fermait les yeux, quelque part il mettait la poussière sous le tapis, les fautes étaient couvertes par le sang des animaux, parce que derrière ça il y avait un acte de foi et une promesse. Il rappelait à Dieu sa propre promesse d'un jour envoyer l'agneau qui allait effacer le péché du monde, mais en attendant ce grand jour de Jésus à la croix, les péchés étaient simplement couverts. Mais par le sang de Jésus, ils sont lavés, ils sont effacés, il ne subsiste plus rien. Et quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver à son baptême, au baptême de Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, il enlève le péché, ce qu'aucun sacrifice animal ne pouvait faire. Et alors il me reste quoi à faire? Ce fils, il lui reste quoi à faire? Il lui faut un cœur honnête, vrai, sincère et droit. Et arrêtez de faire comme Adam et Ève, pardonnez-moi, arrêtez de vous planquer dans vos buissons en espérant que Dieu ne vous voit pas et qu'il n'a pas, conscience de ce qui vous êtes ou de ce que vous avez fait. Il est venu avec un cœur vrai. De toute façon, Dieu est omniscient et dans son omniscience, il y a sa préscience. Et il savait que tu pécherais avant que tu pèches. Il le savait. Il n'y a rien à cacher. Alors je viens avec un cœur humble, soumis, repentant, vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est simplement rentré en lui-même. Il a commencé à réfléchir. C'est le premier pas de la repentance. Il est rentré en lui-même. Il a fait le point. Il pensait pouvoir gérer sa vie, la mener à bien. Il était convaincu qu'il savait mieux que tout le monde et que sa vie à lui serait une réussite. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit un vrai fiasco. Et par conséquent, il a eu l'honnêteté. Déjà rien que ça, pour beaucoup d'êtres humains, c'est trop compliqué. L'honnêteté de comparer quelle était sa vie avant avec Dieu et de comparer la vie qu'il a maintenant sans Dieu. Il est rentré en lui-même et de dire... Quand je considère l'abondance qu'il y a dans la maison de mon Dieu, tous ses bienfaits, tout ce que j'ai manqué, tout ce que j'ai raté, tout ce que... Quel est le fiasco de ma vie maintenant? Il est rentré en lui-même. Il a eu une prise de conscience. Et puis ensuite, sur cette base-là, avoir une prise de conscience, c'est bien, mais vous savez, vous pouvez rester assis. Vous pouvez rester assis sur vos ruines, en train de contempler vos échecs, et puis de pleurer indéfiniment sur vos échecs. Ça s'appelle du remords, mais ce n'est pas de la repentance. Alors ce que le fils a fait, c'est qu'une fois qu'il a compris, il s'est dit ben, il faut concrétiser tout ça. Et ben, il a fait une démarche pratique. Il a pris une décision, une conviction dans son cœur, une décision. Il s'est dit, je vais me lever, je vais aller vers mon père et je vais lui dire ça, 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 ça et ça. Bon, à la fin, il s'est un petit peu loupé, il n'avait pas compris que la grâce de Dieu était aussi surabondante qu'eux. Mais la démarche est bonne. Et du coup, il ne se contente pas d'être assis et de se dire, oh là là, un jour, il faudrait peut-être que je la réouvre, ma Bible, quand même. Depuis le temps qu'elle est sur ma table de nuit. Un jour, il va peut-être vraiment falloir que je retourne dans cette église. Ah, peut-être qu'un jour, il va peut-être vraiment... Ah, ce serait bien qu'un tel et un tel, on se réconcilie, qu'on se pardonne. Ah, ce serait bien, ouais. Ah, ce serait bien quand même que... Certains, la mort risque de les surprendre avant qu'ils aient eu le temps de régler quoi que ce soit, malheureusement. Parce qu'à un moment, il faut le faire. Alors, je me lève, je vais vers mon père. Et le Seigneur, il me demande quoi? Il me demande, après la conviction... Après la prise de conscience, la conviction, la décision, il me demande une confession. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de toi. Je suis digne de rien du tout. Et là, sur cette base-là, parce que Jésus a tout accompli et qu'il a tout payé, sur cette base-là et seulement sur cette base-là, la repentance, suffit au Père. Ta repentance a suffi au cœur du Père. Et le Seigneur ne te permet pas de te comporter comme un mercenaire. Il ne te demande pas de faire tes preuves, parce que c'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te sanctifier. C'est lui qui va te purifier. C'est lui qui va te remplir. Et si tu as été sauvé par grâce, toute ta vie, chaque pas que tu feras de progression avec Dieu dans l'ensemble de ta vie, ne seront que des effets de sa grâce. Encore et toujours sa grâce. Alors, il vient, il demande à son Père, et là, le Père, dans sa joie, dans sa promptitude, on retrouve exactement les mêmes éléments de fond que dans la parabole de la semaine dernière. Le roi miséricordieux, ému de compassion. Le Père, ému de compassion, lorsqu'il le vit, il l'a vu de loin, il a couru et il s'est jeté à son cou pour l'embrasser. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pensée sémitique, il ne lui a pas fait la bise. Littéralement, il l'a pris et il l'a couvert de baisers. Bon, je ne vais pas le faire parce que si je prends, je risque que je l'attrape. Et il va dire, non, t'embrasses personne, arrête. Il l'a pris. Vous savez, quand vous prenez quelqu'un, il l'a couvert de baisers. Le fils, il puait le cochon. Il était sale. Il était en haillons. Le père l'a vu. Il était dans une telle joie. Et il l'a couvert de baisers. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le baiser, toujours à cette époque, un jour je vous expliquerai ce que c'est que le saint baiser de Romains 15, hein, quand Paul dit saluez-vous par un saint baiser. On verra ça plus tard. Il faut comprendre que ce baiser que l'on donnait était une marque d'estime, une marque de respect, une marque d'accueil. Ce n'était pas la bise des Occidentaux au XXIe siècle. C'était vraiment le baiser qu'on donnait soit sur le cou, soit sur le front, profondément, avec un profond respect, profondément respectueux. Et puis, ce baiser était une marque d'accueil, déjà d'avoir eu un baiser. Quand Jésus est dans la maison de Simon le pharisien, à un moment, Simon le pharisien est en train de mépriser cette femme qui est au pied de Jésus. Et Jésus dit à ce Simon, à ce pharisien, il lui dit, mais moi quand je suis venu, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas accueilli et tu ne m'as même pas donné le baiser. Tu m'as invité à ta table, mais tu n'as aucune considération pour moi. La réalité, Simon, c'est que tu ne m'estimes pas, tu ne m'as pas accueilli au sens spirituel, au sens, tu ne m'accueilles pas pour qui je suis. Et là, le Père, lorsqu'il le couvre de baisers, c'est une façon de dire, oui, tu es là, t'inquiète pas, je te restaure, je te reprends, je t'attendais que toi. Et on voit tout la pression du cœur de Dieu, les entrailles du Père, les entrailles de miséricorde qui coulent sur ce Fils qui ne méritait rien, sur la base de ce que Jésus a fait et sur la base d'une simple repentance. Et là, le Père dit, sortez la plus belle robe et revêtez-le. Et cette robe dont il est question ici, la robe, le soulier, la robe, l'anneau, le soulier, les souliers, la robe, c'est l'image de la justification. Nous sommes, par la grâce de Dieu, justifiés. Le vêtement, le manteau, est un symbole de revêtement spirituel. Lorsque, par exemple, Joseph, avant d'être privé de son père, lorsque ses frères l'ont trahi, Joseph avait une tunique. Il avait un revêtement de plusieurs couleurs. C'était une façon de montrer la faveur que son père avait pour lui et puis qu'il était destiné à quelque chose de particulier dans le destin familial. Les pharisiens avaient aussi leur propre revêtement. Ils avaient des longs manteaux, clinquants, qu'on l'on voyait de loin. Ils avaient de larges phylactères. Et puis là, ils se pavanaient et ils priaient au coin des rues. Et en réalité, tout ça, c'est l'image de leur propre justice. Et Jésus dit au travers du prophète Ésaïe, toute votre justice, vos justifications, toute votre justice n'est qu'un vêtement souillé devant moi. La seule robe, le seul manteau, le seul vêtement, le seul revêtement, la seule justice que je peux acquérir et qui a de la valeur aux yeux du Père, c'est celle de Jésus. Il m'a accordé, il a pris mes haillons et il m'a revêtu d'une robe blanche. Et ce qui est extraordinaire, c'est pareil là, c'est que lorsqu'il y a une image très forte, lorsque le Père vient et qu'il prend le Fils comme ça dans ses bras, Le fils, quelques jours avant, il était en train de se dire, si seulement j'avais la même nourriture que les cochons, au moins j'aurais de quoi manger. Ah oui, au fait, pourquoi Jésus emploie cette image ? Toujours pareil dans la pensée juive. Il n'y a rien de plus abject pour un juif qu'un cochon. C'est un animal impur. Et Jésus prend cette image, c'est pour leur montrer quelle est la gravité de leur situation spirituelle et de leur état. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un juif qu'un cochon, un porc. C'est un animal impur, c'est un animal souillé. Et le Fils, il est imprégné de cette odeur de cochon, parce que nous étions remplis de cette odeur nauséabonde de péché. Et quand le Père le voit, il le prend, il le couvre de baisers, mais il le prend dans ses bras. Et là, il y a une image très forte, parce qu'il y a transfert. C'est ce que Jésus fait. Il prend mes haillons, et il me donne sa robe blanche de justice. Lorsqu'il me serre dans ses bras, il prend ma culpabilité et ma condamnation, il me donne sa liberté. Il prend ma condamnation, il me donne sa liberté. Il prend mon indignité et il me donne sa dignité. Il prend mon péché, il me donne sa sainteté. Il y a un transfert qui s'opère à ce moment-là. Et le Père est en train d'accomplir cette œuvre de restauration. Parce que ce que je veux, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu veut déjà aider plusieurs à comprendre ce matin. Déjà pour eux-mêmes et ensuite pour aider à pardonner, à aller plus loin. Déjà vous aider à comprendre, non pas ce que Jésus a fait pour vous, non pas ce que le Père a fait pour vous. Il y a ce qu'il a fait pour vous. Ça, c'était ce qu'il y avait dans la parabole du serviteur impitoyable. Elle m'enseigne ce que Dieu, le Père, ce que Jésus, le Fils, ont fait pour nous. C'est-à-dire nous acquitter, nous libérer de la dette et nous laisser aller. Ça, c'est ce qu'il a fait pour toi. Tu es pardonné. Mais la parabole du Fils prodigue me montre pas seulement ce qu'il a fait pour moi, elle me montre ce qu'il a fait de moi. Ça vous fait plaisir, hein ? Elle me montre ce que le Père, ce que Jésus aussi, ont fait de moi. Je ne suis plus en haillons, je ne suis pas un pécheur gracié pardonné. Oui, je le suis, mais pour Dieu, le fait que tu sois un pécheur gracié pardonné et libre, ça ne lui suffit pas. Son œuvre de restauration pour toi va beaucoup plus loin que ça. Il te revêt de la justice de Christ. Il prend ta condamnation, ton indignité, ton péché, ta souillure, ta culpabilité. Il te donne son innocence, sa sainteté, etc., etc., sa justice. Il te donne tout, il y a un transfert. Et il te rétablit en réalité dans une position de dignité. Et cette position de dignité, elle est marquée par la robe. Il a une tenue, spirituellement parlant, qui est différente des serviteurs et des mercenaires. Et puis, le Père va aussi lui mettre un anneau au doigt. Et cet anneau, c'est un symbole, évidemment, quand un homme et une femme passent à la mairie, ils se passent la bague au doigt, c'est un symbole d'amour. L'anneau, c'est un symbole d'amour. Le Père lui montre à quel point il l'aime. À quel point il l'aime toujours. À quel point même, sans être aveugle sur ses péchés abjects, à quel point même, il n'avait jamais cessé de l'aimer. Et il lui passe cet anneau, symbole d'amour. L'anneau est aussi un symbole d'appartenance. Les époux à la mairie, lorsqu'ils se passent l'anneau au doigt, la bague au doigt, confessent et proclament leur appartenance l'un à l'autre. Et le Père, en lui passant l'anneau, lui dit, « Tu es tout à nouveau mon fils. Je t'appartiens entièrement et tu m'appartiens entièrement. » Et puis l'anneau a encore une autre signification, c'est que cet anneau, c'était la marque, c'était le sceau des dignitaires qui, il y avait forcément un écusson, un cachet, quelque chose, une forme qui permettait d'identifier. Et sur les enveloppes, on faisait couler de la cire et avec l'anneau, on pouvait mettre la marque parce que c'était la preuve qu'il y avait effectivement une autorité et une capacité de la personne qui détient l'anneau, avec sa position, à gérer les affaires familiales. Frères et sœurs, vous et moi, nous avons une responsabilité dans le royaume de Dieu. Nous sommes revêtus, si nous en sommes conscients et que nous faisons attention, nous sommes revêtus de l'autorité du Père, de l'autorité de Jésus. Nous avons une autorité spirituelle que nous ne devons pas négliger. Et voilà ce que dit l'anneau. Donc c'est une autre preuve de son complet rétablissement. Et puis il lui met des souliers aux pieds. Parce qu'à cette époque, aujourd'hui pour tout le monde, avoir des chaussures pour 99% des gens, c'est normal. Mais à cette époque, il faut savoir que seuls les gens qui ont un certain rang, seulement des dignitaires, ont des chaussures, des souliers à leurs pieds. Qui va, pour faire les basses besognes, qui va courir ce qu'on appelait communément les va-nu-pieds ? Eh bien, c'était simplement des serviteurs, des mercenaires, des esclaves. Et le fils, quand il est venu, il ne s'attendait pas. Il s'attendait juste à être dans la maison, pardonné, mais il ne s'attendait pas à une nouvelle tenue. Il ne s'attendait pas à recevoir la dignité, l'autorité. Et il ne s'attendait certainement pas à avoir aussi, c'est bête pour nous aujourd'hui, mais les souliers à l'époque, c'était une preuve de dignité, d'autorité. C'était une façon de montrer, non mon fils, tu n'es pas un va-nu-pied. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un serviteur. Les serviteurs, eux, les mercenaires, ils font ce que je leur dis, ils courent. Ils vont courir devant moi pour accomplir les basses besognes. Mais toi, tu as une robe, tu as un anneau, tu as des souliers. Je te rétablis dans ta dignité. Et ce qui est extraordinaire aussi dans la parabole, ce qui est choquant pour les auditeurs de Jésus à l'époque, c'est quand Jésus dit, le Père, lorsque le Fils revient repentant, le Père l'a vu de loin et il courut. Il courut pour se jeter à son cou. Mais ça, dans la pensée des Juifs de l'époque, c'est inconcevable. Parce que le dignitaire, le père, le noble, il ne court pas. Il a des esclaves pour ça, il a des serviteurs pour ça. Et ça montre, encore une fois, non seulement l'empressement du père à pardonner, mais ça montre aussi la façon dont le père, la façon dont Jésus s'est humilié publiquement. Parce que quand il a couru aux yeux de tous. Les villageois étaient là, ils étaient offusqués. Ils étaient prêts peut-être à en découdre. Peut-être qu'il y avait déjà des ragots, des colibés, des mauvaises pensées, des jugements, des lapidations verbales acérées. Tu te rends compte un peu avec ce qu'il a fait à son père, un homme aussi bien, il ne méritait rien. Comment est-ce qu'il a pu lui faire ça ? Quelle toupée ! Ah voilà, ça fait 15 ans, et ben voilà, il revient comme si de rien n'était. Et peut-être les gens avaient déjà des jugements dans leur cœur. Et pour détourner l'attention de son fils, pour le protéger de la honte et de la haine des villageois, il attire l'attention sur lui et en courant, ça a l'air de rien, mais en courant, le père s'humilie publiquement pour protéger son fils et prendre sur lui l'incompréhension. Est-ce que Jésus à la croix n'a pas été humilié publiquement ? Est-ce qu'il n'a pas pris sur lui l'incompréhension de tous ? Et le père, lui, il a pris cette incompréhension, il a détourné l'attention sur lui pour protéger son fils et qu'il ne soit pas la victime des uns et des autres dans le village. Avec ses souliers, c'est aussi une façon pour le père de lui dire « Tu n'es pas seulement pardonné, tu es totalement restauré, tu es totalement rétabli. Tu n'es pas ni un serviteur, ni un mercenaire, ni un misérable en haillons qui est pardonné. Non, je ne vais pas te mettre un bracelet électronique au pied. Pardonnez-moi, il y a dans nos temps de louanges, dans nos temps de prières, parfois, ce n'est pas méchant, frères et sœurs, on a des silences qui sont hyper, hyper lourds. Et la louange n'éclate pas de nos cœurs. Pourquoi ? Je vous donne une image. J'ai l'impression, sans manque de respect, que beaucoup de frères et sœurs manquent encore. Ils sont rentrés à la maison du Père de tout leur cœur, mais ils n'ont pas compris. Pas seulement ce que Dieu a fait pour eux, mais ce que le Père a fait d'eux, ce qu'il a fait de nous. Pas ce qu'il a fait pour nous, mais ce qu'il a fait de nous. Et on se comporte comme s'il y avait un vieux dossier, je reprends mon image de la semaine dernière, comme si le Seigneur avait, oui d'accord, mais il y avait comme s'il y avait un dossier dans le tiroir et qu'un jour le Seigneur était prêt à me ressortir un truc, ou dans ce contexte, comme si j'avais un bracelet électronique au pied, et puis attention, t'as intérêt de te tenir à carreau, parce que si jamais... Le Dieu vengeur, le Dieu qui juge, qui casse, qui machin, c'est terminé tout ça. Jésus a payé l'intégralité de ma dette. Et quand j'ai compris ça, ça change mon regard, ça change ma vie. Ça, et je me laisse aimer, je me laisse, et je grandis dans la grâce. Et je suis même sanctifié naturellement dans la grâce, béni, bouleversé, transformé dans mon être intérieur par la révélation de la grâce. Et je suis un homme, fils, fille du royaume, une femme, fils, fille du royaume de Dieu, totalement libre. Il ne subsiste plus rien. Et le fils, je vous le dis, ben non, je le dis comme ça, excusez-moi, c'est plus fort que moi, j'ai été ancien flic. Hein. Donc il y a des images qui reviennent. Ben non, le Seigneur n'a même pas mis un bracelet électronique au pied. Je suis totalement libre. Je suis un fils du roi des rois. Et je le bénis chaque jour, non pas parce qu'il est mort pour moi, de ce qu'il a pardonné les péchés pour moi, mais je le bénis de ce qu'il a fait de moi. Et voilà la révélation de cette parabole que tu peux et tu dois absolument saisir par la foi. Et puis cette parabole, comme la semaine dernière, va avoir un deuxième impact. C'est-à-dire que, ayant réalisé l'immensité, c'est toujours pareil, ayant réalisé l'immensité de la grâce de Dieu qui a fait pour moi et maintenant de ce qu'elle a fait de moi, je me dis, mais comment je vais faire pour ne pas pardonner ? Il faut que tu réalises. Il faut que tu aies la révélation dans ton être de qui tu es maintenant. Tu as l'autorité du Père. Tu portes le plus beau de tous les noms. Tu portes le nom de Jésus. Tu portes le nom de Dieu. Tu portes ce nom. Tu as ce nom, tu as cette autorité. Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Tu es ambassadeur de Christ. Tu es héritier. Le fait que le Fils ait retrouvé tout ça, le Père l'a rétabli dans son héritage. Il a tout dilapidé et le Père, à ses propres frais, à 100%, paye l'intégralité de la dette et rétablit le Fils à l'identique de ce qu'il était avant sa chute. Le Père a tout payé. Tu es ambassadeur du roi des rois. Et quand j'ai compris ça, je n'ai pas besoin qu'on me fasse la morale ou qu'on me menace avec des textes bibliques. Attention, hein, faut chercher la sanctification parce que sans ça, tu ne verras jamais le Seigneur. Ah, arrêtez de prendre des textes en dehors de leur contexte, ça ne dit pas ça. Ah, attention, parce que si... Oh, ça va, le légalisme, c'est bon, c'est fini. La montagne redoutable sur laquelle Dieu rencontrait Moïse et quand une bête s'approchait, on l'a lapidée, c'est fini tout ça. Nous ne vivons plus dans la première alliance, nous vivons dans la plénitude de la grâce d'un Père qui nous a pris, accueillis et qui nous a restaurés à l'identique. Et quand j'ai compris qui je suis, ben je ne fais pas n'importe quoi, c'est naturel. Et dans ce « je ne fais pas n'importe quoi », ben naturellement, même si des fois ça peut être dur, et je demande à mon Père Céleste, du Seigneur, tu vois, là, ce coup-là, ça a été, ce coup-là, ça a été, ce coup-là. Mais là, ce coup-là, Seigneur, là, vraiment, je suis en progrès, je suis en chemin avec toi. Seigneur, là, ce qu'on m'a fait, vraiment, tu le sais, c'est dur. Et tu as tout vécu, toi, au paradoxe, tu as tout vécu à l'extrême pour pouvoir me secourir. Tu sais que là, j'ai du mal à pardonner, mais je suis ton fils, je suis ta fille. Je suis ton sacrificateur, je suis ton ambassadeur, je suis héritier du Père, je suis co-héritier avec Christ. Alors Seigneur, il est hors de question que tu ne m'aides pas à pardonner. Et si tu pries comme ça, je te garantis, il va t'aider et tu vas pardonner. Mais, je termine avec ça. Quelle tristesse. Il y a ce fils aîné qui lui n'a même pas, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est la parabole des deux fils perdus. Lui, il n'a même pas conscience de son propre état. Il ne va même pas s'adresser à son père pour savoir ce qu'il se passe. Il s'adresse à ses serviteurs. Ce fils aîné, dans la parabole, c'est le parallèle de Caïn. C'est le parallèle de Ésaü. C'est le parallèle de Saül. Ce sont tous ces hommes qui sont religieux, qui se relient à Dieu par leurs propres œuvres, par leur propre justice. C'est une image des pharisiens qui se relient à Dieu par leur propre justice et qui sont bien d'eux-mêmes et qui n'ont même pas conscience de leur propre état. Et voilà ce fils qui ne va finalement, alors qu'il récite chaque jour des belles prières au coin des rues, drapé dans son beau vêtement, voilà ce fils qui ne va en réalité même pas adresser véritablement la parole à son père, mais qui va s'adresser à un de ses serviteurs et qui va dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ton frère est rentré !» Et là, ce qui est le comble du comble, c'est, pardonnez-moi, ce chrétien évangélique qui, lui, n'a jamais quitté l'Église, il n'a pas compris qui est son Père. Il n'a pas eu la révélation de qui il est. Il n'a pas eu la révélation de la grâce de Dieu. Il n'a pas eu la révélation de ce que le Père a fait pour lui et de ce que le Père a fait de lui. Il n'en a pas eu la révélation. Et par conséquent, puisqu'il n'a pas eu cette révélation, il est bloqué. Il est dans l'impossibilité totale de comprendre. Parce qu'il ne connaît pas son Père. Voilà pourquoi il n'arrive pas à pardonner. Parce qu'il ne connaît pas son Père. Et découvrir son Père, le comble du comble, il va découvrir son Père depuis tant d'années quand il va le voir à l'œuvre dans la vie de son frère. Ah ben, je ne savais pas que mon père était capable de faire ça. Et c'est en voyant ce que le père va faire dans la vie de son frère prodigue que lui, en réalité, va découvrir à ce moment-là. Alors le père, parce que c'est son cœur, c'est son amour. Le pharisaïsme, ça tue. La religiosité, ça tue, ça nous sépare de la grâce. Paul dit aux Galates, vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui cherchez la justification dans une loi, vous êtes déchus de la grâce. Et en réalité, ici, à ce moment-là, quand le fils aîné vient, il découvre à ce moment-là qui est son père, il le découvre dans la vie de son frère. Et il est là avec sa propre justice. Il ne peut pas pardonner parce qu'il ne sait pas qui est son père. Alors le père, parce que oui, le pharisaïsme, ça tue, mais Jésus a tendu la main aux pharisiens. Jésus tend la main à n'importe qui, à chaque cœur. Et puis le Père est aussi sorti, parce qu'il a le même amour pour l'aîné que pour le prodigue. Parce que tu aies fait 2 péchés dans ta vie, ou que tu en aies commis 50 000, le Seigneur t'aime pareil. Et il est sorti à la rencontre du fils aîné. C'est le Père qui fait encore la démarche, et qui vient, qui lui dit, mon fils, ton frère est rentré, maintenant il faut se réjouir. Et là, tout ce que le Père récolte, c'est, oh certes, il y a toujours une présence, il va continuer à faire son petit taf, bien gentiment, bien religieusement, avec une bonne mentalité méritoire, mais en réalité, sans amour, sans passion, et il va même faire des reproches à son père. Et quand ton fils, quand ce fils de toi est arrivé, pour lui tu as tué le veau gras, et moi tu ne m'as même pas donné un chevreau pour me réjouir. En d'autres termes, tu n'as toujours pas compris qui est ton père. Et tu n'as toujours pas compris qui tu es. Tu m'expliques pourquoi tu me demandes 50 balles quand tu as accès à tous les comptes bancaires de la maison ? Tu es mon fils. Tu as une robe, tu as des souliers, tu as une bague à ton doigt, tu as l'autorité. Et le père lui dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Depuis le temps que tu es là, tu devrais avoir une vie dans l'onction, dans la grâce, dans la puissance, dans la prière, dans les miracles, dans l'épanouissement, dans la louange. Tu devrais voir et aussi accomplir par moi, par l'Esprit. Tu devrais faire et vivre des œuvres extraordinaires. Mais tu en es encore là et tu es encore en train de me demander 50 balles alors que tout ce que j'ai est à toi. Le ciel est rempli de bénédictions pour toi. Tu ne les prends jamais. Tu t'es occupé de rien. Tu as passé ta vie à faire ton petit frichti, tes petits machins. Et quand moi, je t'ai montré quelle était la dimension de ma grâce et de ma richesse, maintenant, tu te retournes contre moi. Mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Maintenant, s'il te plaît, change de mentalité. Il faut que tu changes ton état d'esprit. Toi aussi, tu as besoin de repentance. Pas pour les mêmes raisons que ton frère, mais tu en as tout autant besoin. Et toi aussi, il faut que tu rentres. Rentre dans la maison du Père. Il faut que tu reviennes. Il faut aussi que tu rentres, parce que tu es peut-être à l'œuvre, mais tu es à l'extérieur. Tu es peut-être dans le périmètre de Dieu, tu es peut-être dans la maison de Dieu, mais tu es ignorant du Dieu de la maison de Dieu. Et il faut que tu reviennes à l'intérieur. Malheureusement, le fils aîné, si le fils prodigue a tout vécu, tout reçu, tout expérimenté, malheureusement, le fils aîné, et c'est la plus grosse tragédie, c'est le plus gros drame de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut être si près d'une source et mourir de soif ? Comment est-ce qu'on peut, alors qu'on a accès à toutes les richesses du royaume de Dieu, vivre comme un mendiant spirituel? Comment est-ce que je peux mourir de faim alors que je suis à côté de la plus belle table qui soit? Comment est-ce que je peux autant manquer d'amour, déjà pour moi-même et pour les autres, alors que j'ai le Père le plus extraordinaire de tous les temps qui vit dans mon cœur par le Saint-Esprit? Et la plus grosse, cette parabole nous laisse un petit peu, pas dubitatif, mais mélange deux sentiments en nous. Toute la joie de ce que le Père a fait pour le prodigue, j'insiste, repentant. Sans repentance, pas de restauration pour le prodigue repentant. Puis en même temps, cette tristesse pour ce fils aîné qui est carrément passé à côté de tout ce que le Père avait pour lui. Ce matin, on va se recueillir, on va prier. J'aimerais qu'on se recueille, s'il vous plaît. Je vais faire un appel.